Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Génocide de 1994 au Rwanda, une institution judiciaire créée par les Nations Unies accuse l'Afrique du Sud de ne pas coopérer à l'arrestation d'une personne inculpée par l'ex-tribunal pénal pour le Rwanda, le TPIR, pour son rôle dans le génocide des Tutsis de 1994. Serge Bramert, procureur en charge du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, MTPI, a critiqué devant le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi le manque de coopération de Pretoria pour l'arrestation du fugitif rwandais en question se trouvant en territoire sud-africain. Le MTPI assure les fonctions résiduelles du TPIR dont les activités ont pris fin en 2015. Et bien que M. Bramert n'ait pas identifié le suspect recherché, plusieurs sources juridiques font savoir qu'il s'agit de Protais Mpirania, qui commandait la garde du président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana. C'est la première fois que l'Afrique du Sud est accusée de ne pas faciliter l'arrestation d'une personne mise en accusation par le TPIR. Processus de paix en République centrafricaine, nouveau progrès dans le programme de DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Les combattants de trois groupes armés ont déposé les armes dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé mercredi la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Le point avec Abdourahman Dia.
Les éléments du Front démocratique du peuple centrafricain ont été complètement désarmés, a déclaré Kenneth Gluck, représentant spécial adjoint de la MINUSCA. Les combattants du mouvement Révolution et Justice ainsi que ceux de l'UFR anti-Balaka ont également rendu les armes, a-t-il ajouté. Plus de 450 combattants ont été désarmés dans la préfecture de la Nanamambéré dans l'ouest du pays. Ce désarmement intervient dans le cadre du programme Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement lancé en décembre 2018 par les autorités. À ce jour, 5 groupes armés y ont pris part, celui du mouvement de 3R est actuellement en cours selon la MINUSCA. La majorité des 14 groupes signataires de l'accord de paix de Khartoum n'ont toutefois pas encore désarmé leurs troupes. Cet accord est le 8e conclu depuis 2013. La situation sécuritaire reste particulièrement fragile et les violences ont forcé près d'un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile.
Au Soudan voisin, les généraux qui dirigent le pays depuis avril et les leaders du mouvement de contestation ont signé hier un accord sur le partage du pouvoir. Un moment qualifié d'historique et salué par l'Union africaine et les États-Unis. Les précisions d'Irénée Hormon Ungbo.
C'est une étape cruciale vers une réconciliation globale, s'est félicité le médiateur de l'Union africaine Mohamed El Hassem Lebat après avoir paraphé le document. L'ambassade américaine à Khartoum a de son côté encouragé les deux parties à continuer leurs discussions. Nous sommes impatients d'accueillir et de travailler avec de nouvelles institutions pour répondre aux défis pressants du Soudan, a indiqué sur Twitter Tibor Nage, le monsieur Afrique du département d'État américain. Des discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours sur l'immunité réclamée par les militaires et rejetée par le mouvement de contestation. La contestation et le conseil militaire qui a déposé le 11 avril, le président Omar El-Béchir s'était accordé le 5 juillet sur le principe d'un partage du pouvoir après une intense médiation de l'Union africaine et de l'Éthiopie.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ebola en République démocratique du Congo, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré l'épidémie d'Ebola en RDC urgence sanitaire mondiale. Quelques jours après le premier cas confirmé à Goma, chef-lieu de la province du Nord, Kivu dans l'est du pays, et deux autres cas qui avaient été auparavant enregistrés en Ouganda. Quelle signification? Eddy Sango a posé la question au responsable de la riposte contre l'épidémie d'Ebola à Beni, le docteur Aaron Haruna.
Cela signifie seulement que pour résoudre des problèmes de la maladie à virus Ebola, ça nécessite à ce que la communauté internationale aussi soit impliquée, que ce n'est plus seulement les problèmes qui concernent la République démocratique du Congo. C'est un problème qui concerne plusieurs pays, plusieurs nations. C'est ce qu'on veut dire. Et pour résoudre ce problème-là, ça nécessite à ce que tout le monde puisse intervenir.
Mais quelles conséquences cela peut-il avoir pour le Congo?
L'épidémie a commencé depuis des mois, je pense, en peu de jours, où nous allons réaliser une année. Il y a des moments difficiles que nous avons traversés où par jour, il y avait 10 cas, il y avait 10 décès, ainsi de suite. La situation semble être maîtrisée ces derniers temps et qu'il reste un peu de ressources pour avancer, pour terminer cette épidémie. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Il vient de mettre un cadre, un tas de riposte. Il est en train de mobiliser l'argent pour qu'on puisse arriver au bout de cette épidémie. Bon, la raison avancée, c'est parce qu'il y a un cas à Goma, c'est vrai. La fois passée, il y avait un cas à Nougan, on n'a pas déclaré l'épidémie. La raison, je ne sais pas, parce qu'il y a des cas qui sont à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour déclarer. Les gens sont portés par l'ensemble. Je pense que l'OMS a ses raisons qui poussent à ce qu'elle puisse se déclarer comme telle urgence à portée internationale. Nous sommes maintenant dans la bonne voie.
Et justement, quelles sont les mesures que les autorités congolaises ont prises après ces premiers cas à Goma? Quelqu'un qui a traversé plus de 280 kilomètres et puis des gens qui vont en Ouganda, au Rwanda. Quelles sont les mesures que les autorités prennent justement pour empêcher que l'épidémie ne s'étende?
On a essayé à partir de ces cas de renforcer tous les points d'entrée, tous les points de contrôle. Il y a des points où nous avons mis les activités dans ce passé 24 sur 24 heures. Et puis, nous allons essayer de revoir les personnels qu'on doit mettre sur place là, que ce soit les personnels médicaux, non seulement qui sont là pour vérifier la température, mais qui soient capables de regarder quelqu'un qui est malade et arriver à dire, mais si bien que la température n'est pas élevée, mais ton état nécessite à ce que vous soyez suivi ou que vous puissiez faire un examen un peu particulier. Personnellement, j'ai participé à cette réunion avant que l'OMS puisse prendre les décisions. Je l'ai dit, si on prend des mesures à ce que le pays soit en embargo, qu'il n'y ait pas de circulation, je pense que ça peut avoir un impact négatif, comme vous le savez, surtout à l'est du pays, sur Goma, Bukavu, Beni. Les gens vivent des commerces et la porte de sortie souvent pour leurs commerces, c'est Ouganda, Rwanda, ainsi de suite. Ils m'ont rassuré qu'ils ne vont pas arriver à fermer les frontières, mais ils vont seulement demander à ce que tout le monde puisse participer et qu'on puisse renforcer la surveillance au point d'entrée et aussi la surveillance à l'intérieur du pays pour contrôler les mouvements des populations, surtout des personnes suspectes.
Mais le pasteur qui est décédé a traversé une longue distance. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'on enregistre de nouveaux cas, soit à Goma, soit le long du chemin qu'il a parcouru?
Nous avons mis 34 séries d'activités depuis Beni jusqu'à Goma et les activités sont en train de se réaliser. Et on a listé toutes les personnes qui étaient en contact de lui depuis Beni jusqu'ici. Et il y a une grande partie qui sont vaccinés aujourd'hui. Ils seront vaccinés demain. Et dans 3-4 jours, tous les contacts, effectivement, ils seront vaccinés.
Docteur Aaron Haruna, responsable de la riposte contre l'épidémie d'Ebola à Beni, dans la province du Nord Kivu.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant, Joaquin Guzman di El Chapo a été le baron de la drogue le plus puissant et le plus recherché du monde. Il a été condamné hier à la prison à perpétuité aux États-Unis. Ses évasions rocambolesques l'ont rendu plus célèbre jusqu'à son arrestation en 2016. Les détails avec Gabi Dorsil.
El Chapo, le courteau, est un surnom dû à sa petite taille. Né le 4 avril 1957 d'une famille pauvre dans le nord-ouest du Mexique, l'enfant, Joaquin Guzman, vendait des oranges, caramels et boissons gazeuses. Adolescent, il se met à cultiver la marijuana et le pavot. Il sera recruté par le chef du cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé « le parrain ». À l'arrestation de ce dernier en 1989, Joaquin Guzman fonde le cartel de Sinaloa. Il fournira de l'héroïne, de la cocaïne et de la marijuana dans le monde, dont plus de 1200 tonnes vers les États-Unis. Il a des flottes de sous-marins, d'avions, de camions et de bateaux, et a même figuré un temps sur la liste du magazine Forbes des hommes les plus riches du monde. En 1993, des tueurs l'ont confondu avec un cardinal à l'aéroport de Guadalajara. Un mois après, il est arrêté au Guatemala. Détenu dans une prison de haute sécurité mexicaine, il soudoie ses gardes et s'échappe en 2001, caché dans un bac à linge sale. Il a fallu 13 ans pour le rattraper. Là encore, il s'évade en juillet 2015 par un tunnel d'un kilomètre et demi débouchant sous la douche de sa cellule. Cette nouvelle cavale sera brève. Il est arrêté en janvier 2016 dans son fief de Sinaloa. Expulsé vers les États-Unis, El Chapo a été condamné mercredi par un juge de New York à la prison à vie, plus 30 ans. Il devra purger sa peine à Florence, dans le Colorado, surnommé l'Alcatraz des Rocheuses. Cette prison au milieu de nulle part est considérée comme la plus sûre et la mieux gardée aux États-Unis.
Et pour terminer à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, le Nigeria s'est classé troisième de la compétition en battant la Tunisie 1-0.